Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. La semaine passée, nous avons vu la différence entre les Pâques, d'origine païenne, et la Pâque, qui, elle, est biblique. Nous avons également établi le lien entre le sacrifice du Christ et l'immolation de l'agneau qui protégea les premiers-nés israélites de la mort juste avant leur exode. Le Christ observa-t-il cette fête? Voyons-en le récit dans l'évangile de Luc. Le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva. Remarquez qu'il n'est pas question de la fête des pains sans levain, mais du repas de la Pâque, au cours duquel il était requis de manger des pains sans levain. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » J'attire votre attention sur le fait que le Christ attendit le jour fixé pour donner ses instructions pour la préparation de la Pâque. Et il ne se mit à table que lorsque l'heure fut venue, nous laissant ainsi un exemple que nous devons suivre. Cet exemple et les enseignements qui en découlent ont perdu leur véritable signification dans le christianisme traditionnel. Certaines églises prétendent que le pain et le vin contiennent réellement le corps et le sang de Jésus-Christ. Leurs membres peuvent participer à la communion tous les jours s'ils le souhaitent. D'autres prennent le repas du Seigneur le dimanche matin. D'autres encore l'observent une fois par mois, le matin. Et certains parmi eux la prennent le soir 4 fois par an. Pendant qu'ils mangeaient la Pâque, Jésus prit du pain, de ce pain sans levain commandé pour cette observance. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » L'apôtre Luc ne manque pas de préciser que Jésus ajouta « Faites ceci en mémoire de moi ». Le chrétien doit donc observer la Pâque au jour indiqué et à l'heure fixée en mémoire, en commémoration de la mort du Christ, qui est l'agneau de Dieu, notre Pâque. Permettez-moi d'attirer votre attention sur le fait que Jésus a utilisé du vin, du jus fermenté dont le sucre a été transformé en alcool. À cette époque, le jus de raisin ne pouvait pas être conservé jusqu'au printemps. Il se transformait en vin ou en sirop épais environ 40 jours après les vendanges. Ceux qui ont étudié tant soit peu les pratiques de la communauté juive à l'époque du Christ confirment que l'on utilisait exclusivement du vin lors de la Pâque et non du jus de fruits. Au cours de la dernière Pâque, prise avec ses disciples, Jésus institua de nouveaux symboles. Voyons cela. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Et si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Certains prétendent que ces instructions ne concernent que les disciples du Christ, c'est-à-dire les 12. Mais qui sont ces disciples? Le livre des Actes nous répond, « En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les 12 convoquèrent la multitude des disciples. » Jésus répond lui-même à cette question, « Si vous demeurez dans ma parole, autrement dit dans mon enseignement, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et lisons ce que l'apôtre Paul écrit à ce sujet, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi, en souvenir de moi qui suis l'agneau de Dieu, votre Pâque. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » En utilisant l'expression « toutes les fois », Paul nous laisse-t-il comprendre que nous pouvons participer à ces nouveaux symboles aussi souvent que nous le souhaitons? Absolument pas. Jésus nous a donné ses instructions au cours de la nuit où lui, l'agneau de Dieu, a été livré. Cela eut lieu le premier mois, selon le calendrier divin, le 14e jour entre les deux soirs. Ce que Jésus nous dit, c'est « Chaque fois que vous observerez la Pâque, faites-le en souvenir de moi, rappelez-vous les raisons de mes souffrances et de ma mort. » Jésus s'est offert une fois pour toutes. Il a mis fin au sacrifice de l'agneau. En effet, les sacrifices furent donnés jusqu'à une époque de réformation, c'est-à-dire jusqu'à la mort du Christ. Il n'a pas mis fin à l'observance de la Pâque, qui, elle, fut donnée à perpétuité, mais il en a changé les symboles. Le pain représente son corps qui fut brisé pour nous, comme Ésaïe l'avait prédit. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. La flagellation se faisait sur un supplicié dénudé, maintenu en position légèrement courbée, les poignets attachés à un anneau fixé à un poteau. Le fouet comportait plusieurs lanières, terminées par des morceaux d'os, des maillons de chaîne ou des pointes métalliques. Ces coups, assaisonnés avec violence, n'épargnait aucune partie du corps. La chair était arrachée et laissait apparaître les os. Chaque coup déchirait plus profondément la chair. Le visage n'était pas non plus à l'abri, et il n'était pas rare de voir un œil crevé, des narines, des oreilles ou des lèvres arrachées. Dans un psaume, David prophétisa les souffrances du Christ. « Ils ont percé mes mains et mes pieds, je pourrais compter tous mes os. » Ésaïe ajouta, « Tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. » À la fin de son supplice, Jésus a perdu le sang qui lui restait à cause du coup de lance du soldat romain. Ce coup de lance lui fit pousser un grand cri et mit un terme à son agonie, comme le confirme le Sinaiticus, le Vaticanus, qui sont des textes anciens. La version Fenton indique au verset 50 « Mais un autre soldat prenant une lance la lui enfonça dans le côté, et du sang et de l'eau en sortirent. Puis, Jésus, ayant de nouveau poussé un grand cri, rendit l'esprit. » La version Moffat, elle, décrit la scène comme suite. L'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et fixa à l'extrémité d'un bâton pour lui donner à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Saisissant une lance, un autre soldat perça, selon texte grec, son côté et il en sortit de l'eau et du sang. Finalement, c'est la lance qui tua le Fils de Dieu. Ce coup de lance ouvrit une blessure béante au point qu'on pouvait y introduire la main. C'est ce que Jésus fait remarquer à Thomas en lui disant « Avance ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » En disant à Thomas « Avance ici ton doigt », Jésus se rapporte à l'empreinte que les clous avaient laissée dans la paume de ses mains. Et en lui disant « Avance aussi ta main », il nous laisse deviner l'importance de cette blessure mortelle. C'est ce coup de lance qui répandit son sang, lui faisant perdre la vie. Si Jésus n'était pas mort de cette façon, les autres soldats lui auraient certainement brisé les jambes, comme ils le firent aux deux malfaiteurs, et il serait mort étouffé. Le Christ ne pouvait pas avoir les os brisés, car pour l'agneau de la Pâque, l'Éternel avait donné des instructions précises, « Vous ne briserez aucun os ». Il n'était donc pas question que le Christ puisse avoir la moindre fracture. Paul nous dit, « Le salaire du péché, c'est la mort. » Il s'agit ici de la mort éternelle, qui est l'amende des péchés, des transgressions de la loi. Paul ajoute, « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Selon le petit Robert, une effusion de sang est l'action de faire couler le sang d'une manière violente. Les animaux que l'on immolait en sacrifice devaient être égorgés, saignés. Il en était de même pour l'agneau de la Pâque. Par conséquent, le Christ devait être saigné comme un agneau. C'est la raison pour laquelle le Christ présenta la coupe à ses disciples en disant « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Le sang de l'agneau avait préservé les premiers-nés des Israélites de la mort physique, empêchant le destructeur d'entrer dans les maisons pour les frapper. De même, le sang du Christ justifie le véritable chrétien et ne permettra pas à la mort éternelle de le frapper, pour autant qu'il continue à vivre dans l'observance des lois. Tous les hommes sont sous l'emprise du péché, qui n'est que la transgression de la loi. N'oubliez pas que Paul a écrit « Ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Nous sommes justifiés par le sang du Christ, mais cela ne nous permet pas de continuer à vivre dans le péché, dans la transgression de la loi. La Pâque n'est pas la célébration de la résurrection du Christ, c'est un mémorial, une commémoration, l'anniversaire d'un événement dont nous devons nous souvenir, au temps fixé par Dieu, et non quand nous le décidons. La Pâque doit nous rappeler les souffrances du Christ et sa mort. Elle a été donnée à perpétuité, à la postérité d'Abraham, au peuple d'Israël. Le chrétien en est la postérité spirituelle, comme Paul le confirme. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. La Pâque est donc obligatoire pour chaque véritable chrétien. Faites donc la différence entre la Pâque et les Pâques. La première est biblique, la seconde est d'origine païenne.